Alors, amis, bonsoir. Ce soir, nous allons écouter une conférence dont le titre est « Le mystère du sommeil et des rêves ». Et avant d'écouter la conférence, nous allons lire une courte lecture tirée du livre de Madame Blavatsky, « La voix du silence ». Trois salles, ô pèlerins éprouvés, conduisent à la fin des labeurs. Trois salles, ô toi qui t'affrontes à Marat le tentateur, te conduiront par trois états jusqu'au quatrième, et de là dans les sept mondes, les mondes de l'éternel repos. Si tu veux en connaître les noms, écoute et souviens-toi. Le nom de la première salle est ignorance. Avidya, c'est la salle où tu as vu le jour, où tu vis et où tu mourras. La seconde salle a pour nom salle d'apprentissage. Là, ton âme trouvera les fleurs de la vie, mais sous chaque fleur, un serpent est lové. Le nom de la troisième salle est sagesse. Au-delà s'étendent les eaux sans rivage d'Akshara, l'indestructible source d'omniscience. Si tu veux traverser en sûreté la première salle, ne laisse pas ton mental s'abuser et prendre les feux du désir qui y brûlent pour la lumière solaire de la vie. Si tu veux traverser en sûreté la seconde salle, ne t'arrête pas à respirer le parfum de ces fleurs stupéfiantes. Si tu veux te libérer des chaînes karmiques, ne cherche pas ton gourou dans ces régions mayaviques. Les sages ne s'attardent pas dans les champs de plaisir des sens. Les sages ne prêtent pas attention aux voix charmeuses de l'illusion. Cherche celui qui doit te donner naissance dans la salle qui est au-delà, la salle de sagesse, où toutes les ombres sont inconnues et où la lumière de la vérité resplendit d'une gloire inaltérable. Place à la conférence.
Alors, amis, pourquoi dormons-nous ? Que se passe-t-il pendant notre sommeil? Les rêves ont-ils quelque chose à nous apprendre? En fait, nous nous posons une multitude de questions qui sont pour nous un mystère parce que la science ne répond pas de façon satisfaisante à ces questions. Alors, on va essayer de donner quelques éléments de réponse à la lumière de la théosophie. Alors d'abord, pourquoi dormons-nous? Alors, il faut savoir que nous baignons dans la vie. La vie est partout, à tous les niveaux de l'univers. Et il faut savoir que l'univers est constitué de sept plans. Le plan sur lequel nous sommes, c'est le plan de la matière la plus dense. Et nous sommes aussi constitués de ces sept aspects. Et en fait, la vie est absolument partout. Ce que nous appelons, par exemple, de la matière morte, est en fait de la vie, est constitué d'une vie. Et au niveau le plus élevé, au plus subtil, on pourrait même appeler ça le cœur de la vie. Et même nos pensées sont des vies. En fait, lorsque nous pensons, ce sont des formes pensées, des images mentales qui vont s'agréger à la lumière astrale, c'est-à-dire dans la psychosphère de la Terre. Et ces pensées auront une durée de vie qui va dépendre de la force avec laquelle nous les avons émises. Alors en fait, donc, nous baignons dans la vie. Et quand arrive le soir, eh bien, nous sommes complètement épuisés, à la fois par notre résistance qui s'amenuise de plus en plus, et aussi à la fois par le fait que nous sommes saturés d'énergie. Et à ce moment-là, eh bien, nos centres nerveux, les ganglions sensoriels du cerveau, se refusent à agir plus longtemps et nous basculons d'une façon tout à fait naturelle dans le sommeil. Alors, pour prendre une analogie, eh bien, c'est un peu comme quand on est en été, accablé de chaleur, on n'a plus de force et de ce fait, on entre dans un endroit climatisé et là, tout d'un coup, au bout d'un moment, on va récupérer nos forces, on va se sentir beaucoup plus fort et on va pouvoir à nouveau affronter la canicule. Eh bien, c'est un peu pareil. Là, on va basculer dans le sommeil. On va d'abord passer par le rêve et puis après le sommeil profond. Le sommeil profond qu'on appelle sommeil sans rêve. Alors, on l'appelle sommeil sans rêve, non pas parce qu'il n'y s'y passe rien, Bien au contraire, on verra tout à l'heure, mais parce que nous en ramenons rien en conscience. Et quand on dort, eh bien, sur tous ces plans, on va récupérer à nouveau de l'énergie vitale, mais celle dont nous avons besoin pour à nouveau affronter la vie du jour suivant. Donc voilà un petit peu au niveau, on va dire, au niveau énergétique ce qui se passe. Et la question qui se pose donc maintenant, c'est que se passe-t-il durant notre sommeil ? Alors, d'abord, avant de pouvoir répondre à cette question, il va falloir reconnaître qu'il y a en nous quelque chose qui va traverser les différentes phases du sommeil. Et ce quelque chose en nous, eh bien, c'est notre sens d'identité propre, le « je suis moi-même », en sachant que nous faisons une distinction entre la personnalité qui est un homme, une femme, qui aime ci, qui aime ça, qui est né dans une culture, qui s'est enrichie d'une culture, qui a une expérience, etc., et dont la personnalité est sans cesse mouvante. Alors que ce sens d'identité, le témoin intérieur que nous sommes en profondeur, lui, il ne varie jamais. C'est toujours le même depuis le moment où nous avons été un tout petit enfant, nous avons grandi, adolescent, devenu adulte, toujours le même, je suis moi-même. Et c'est ce même centre d'identité profonde qui traverse toutes les étapes, qui a traversé toutes les étapes de nos vies antérieures, qui est passé par les étapes après la mort et qui s'est réincarné à nouveau. Et ce sera toujours le même qui va traverser toutes les vies que nous aurons dans le futur et qui changera jamais, mais qui va s'enrichir de toute l'expérience conditionnée. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce foyer de conscience individuelle, donc c'est notre ego profond, on va l'appeler l'ego profond, c'est-à-dire l'âme réelle, le penseur, le témoin intérieur, ce qui perçoit en nous, qui connaît, qui fait des expériences et qui accède à des niveaux de conscience différents, puis les quitte. Mais il garde toujours son intégrité, c'est toujours le même. Je suis moi-même, le même témoin intérieur, la conscience individualisée. Donc c'est ce foyer de conscience individualisée qui va passer à travers les différentes phases du sommeil. Donc, et les sages vont dire que le jour pour le corps est la nuit pour l'âme. Et que le jour pour l'âme, eh bien, c'est la nuit pour le corps. Et la théosophie dit, quand le corps est endormi, l'homme réel est des plus actifs, avec le plus haut degré d'intelligence. Simplement, il pense et agit sur un tout autre plan, dans un état complètement différent de tous ceux que nous connaissons pendant l'existence humaine de veille ordinaire. Toutefois, il faut savoir que c'est seulement dans des cas très exceptionnels que l'homme sait qu'il reste conscient en permanence et que cette conscience ne mourra jamais. Alors, pourquoi et comment se fait-il qu'à l'état de veille, nous ne sommes pas conscients de cette activité qui a lieu pendant le sommeil profond sur des plans de conscience plus élevés ? Alors, pourtant, il faut savoir que toute cette connaissance, elle est en nous. Elle est enregistrée quelque part dans notre nature impérissable, hein, en sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, la personnalité, c'est l'aspect fluctuant qui va mourir, mais cet aspect plus permanent, qui fait partie de notre nature permanente, donc ce foyer de conscience, à ce niveau-là, ces instruments correspondent à ce qu'il va enregistrer de mémoire de tout ce qu'il a vécu, à la fois depuis que l'univers a commencé à se manifester, et ce, à travers les différents états de conscience dans lesquels on s'est manifesté, ce pouvoir de conscience est manifesté et s'est construit, et bien tout ça s'est enregistré quelque part dans notre nature profonde. Et donc, quand il va se retrouver sur son propre plan de conscience, eh bien, c'est à ce niveau-là que l'ego est à l'œuvre et qu'il sait qu'il pense et qu'il se connaît tel qu'il est et non pas tel qu'il apparaît à travers une personnalité, mais tel qu'il est réellement. Et il sait tout ce qu'il a vécu et il a la possibilité d'avoir la mémoire de tout ce qui a pu se passer antérieurement. Et il est dit que c'est là que se trouve rassemblée en un tout homogène la mémoire de toutes les expériences qu'il a traversées. En fait, que le vrai nous-mêmes, le « je suis » a traversé. Alors, quand nous dormons, c'est-à-dire pendant le sommeil du corps et du cerveau, eh bien, le foyer de conscience, l'ego toujours éveillé, retourne vers cette source de connaissance qui est son propre plan d'expérience, où il vit sa vie sans que le moi personnel en soit conscient au réveil. Parce que, en fait, toute cette mémoire est en nous, quelque part, dans l'homme vaste que nous sommes, mais il faut savoir que nous sommes éveillés partiellement à notre véritable nature. Il manque encore un éveil qu'on va réaliser dans le cours du temps, au fur des réincarnations. Ou avant, ou un peu avant, si on s'est mis en route avant. Alors, en fait, donc, ce que nous dit la théosophie, c'est que l'être humain pourrait être comparé à une lyre à 7 cordes. Et chaque corde correspond à un plan de conscience et de substance particulier avec lequel l'âme entre en relation. Et la conscience de veille ne répond qu'à une seule de ces cordes. Et accordée sur cette tonalité, eh bien, le cerveau n'est pas encore entraîné à vibrer en résonance donc avec les autres cordes. Et c'est pourquoi nous ne ramenons rien en conscience de ce plan plus spirituel, de ce plan spirituel. C'est pour ça que donc chaque nuit, eh bien, dans le sommeil profond, l'ego va se retrouver sur son propre plan où il pense, agit, et en fait, il faut savoir que c'est un plan complètement abstrait et que la pensée est une action en elle-même. Les deux sont vraiment concomitants. Et il se trouve que la personnalité au réveil, eh bien, elle n'a aucune conscience de son action parce que cette personnalité, avec son cerveau, sa machinerie à penser, eh bien, tout cela se trouve paralysé, en quelque sorte. Alors, durant nos heures de veille, cet ego que nous sommes en réalité, mais nous sommes, en fait, nous sommes identifiés à la personnalité, nous ne sommes pas identifiés à cet ego, eh bien, pendant nos heures de veille, cet ego est en quelque sorte prisonnier de nos états de conscience, de ce qui nous intéresse. Parce qu'en fait, tous les pouvoirs d'intelligence, de compréhension, le pouvoir d'action, le pouvoir d'amour, enfin tous les pouvoirs, nous les tirons de cet ego. Et là, pendant nos heures de veille, il est un peu comme le prisonnier, il va être au service de la personnalité en quelque sorte. Mais quand la personnalité s'endort, eh bien, le prisonnier est libéré. Et d'une façon allégorique, on va dire que quand la personnalité s'endort, donc le prisonnier va se libérer, il va être sur son propre plan, il va agir. Et quelquefois, eh bien, la personnalité va ouvrir un œil un petit peu somnolente. Elle voit ce qui se passe, mais elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et puis après, au réveil, eh bien, le prisonnier va retrouver sa geôle et la personnalité va peut-être se rappeler de quelques idées qu'elle a pu capter à ce moment-là, mais elles vont être immédiatement mélangées à la mémoire, c'est-à-dire au contenu psychique de l'individu, et elles vont avoir ni queue ni tête. Il n'y aura plus aucun moyen de retrouver des éléments de vérité là parce que en fait, ce sera complètement habillé, complètement imprégné de tout ce qu'il y avait dans la psyché du rêveur, du dormeur. Alors, maintenant, on va se demander que se passe-t-il alors lorsque nous tombons dans le sommeil. Alors, lorsque nous endormons déjà, nous allons passer par ce qu'on appelle le premier plan, c'est le plan du rêve. C'est la salle d'apprentissage dont il a été parlé dans la lecture. Et sur ce plan du rêve, immédiatement, il va y avoir quelques images qui vont réémerger, des images qui correspondent à ce qui a eu beaucoup d'impression sur nous dans la journée, ce qui nous a beaucoup tenu. Alors, ce sont des images qui vont émerger comme ça, un petit peu à la manière d'un feu qui s'éteint, et puis un petit vent qui passe, et voilà, quelques braises se rallument, puis elle s'éteint à nouveau complètement. Et là, c'est pareil, ces images, elles vont apparaître et s'éteindre complètement. Et immédiatement, nous allons basculer dans ce qu'on appelle le sommeil sans rêve, c'est-à-dire le sommeil profond. Et après, nous allons repartir au niveau du rêve et nous allons nous réveiller ou pas nous réveiller. Et nous allons repartir par ce même chemin, en sachant que la phase du rêve est très courte, alors que le temps du sommeil profond est beaucoup plus long. Et il faut savoir aussi que nous allons faire ces allers-retours en moyenne entre 3 et 5 fois par nuit. Tout va dépendre du dormeur, de la qualité de son sommeil et de la durée de son sommeil. Alors maintenant, quand nous rêvons ? Eh bien, quand nous rêvons, bien que nos yeux soient fermés, que tous nos sens soient inhibés, eh bien pourtant nous allons voir, nous allons entendre, nous allons sentir, goûter, toucher, etc. Et en fait, on va se servir de ce qu'on appelle les sens astraux. Et il faut savoir que les sens physiques sont simplement le prolongement des sens astraux. Les sens astraux sont vraiment les sens véritables de l'homme intérieur. Et donc, l'ego donc va faire l'expérience du rêve. Et quand nous nous réveillons là, tout d'un coup, on sait qu'on a rêvé. Parce qu'on se rappelle peut-être vaguement, mais immédiatement il va s'éteindre ce rêve. On ne va pas arriver à le capturer, à comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il faut savoir que quand nous sommes donc à cet état de rêve, nous sommes conscients, mais nous ne sommes pas soi conscients. C'est-à-dire que nous ne manifestons pas ni l'intelligence, ni le libre arbitre, ni la volonté. Tout ça, on n'a encore pas développé à ces niveaux. On n'a pas développé tous ces pouvoirs à ces niveaux. Mais ça viendra dans le cours du temps. Alors maintenant, ce qui se passe durant le sommeil, eh bien, sera largement influencé par ce que nous avons fait dans la journée. Ce qui nous a préoccupés, à quoi on s'est attaché, ce qui a eu de l'importance, comment on a réagi face aux événements, tout ça va influencer sur notre état de rêve et aussi sur la possibilité d'en ramener quelque chose au niveau conscient. Parce que si notre attention se porte uniquement sur des préoccupations d'ordre matériel et personnel et que nous utilisons notre intelligence uniquement pour les satisfaire, eh bien la psyché sera sur cette note tonique. Et toute tonalité plus élevée ne sera pas saisie ni consignée par le cerveau parce qu'il n'est pas habitué à être sur une autre fréquence. Donc au réveil, la conscience ne ramènera que des images psychiques plus ou moins déformées et puis on dira bah, ce rêve, il ne veut rien dire, c'est complètement chaotique. Parce que la substance de ce qu'on aura peut-être pu ramener eh bien, sera complètement distillée avec le contenu de notre psychisme. Alors, il faut savoir qu'il y a une cause puissante qui pèse lourdement sur notre capacité à retenir quelque chose de notre expérience nocturne. C'est la façon dont nous percevons le monde. Si nous sommes des matérialistes qui croyons que la vie a commencé avec le corps et qu'elle finira avec le corps, c'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus de conscience, à ce moment-là, eh bien, toutes nos pensées, tous nos actes, eh bien, ils auront cette conviction pour base. Et nous serons complètement hermétiques à toute expérience hors du corps physique. Alors que si nous sommes spiritualistes et que nous pensons que la vie, la naissance plutôt, et la mort sont les deux portes de la vie qui, elle, est éternelle, si nous pensons qu'après la mort, il y a quelque chose de notre conscience qui survit, eh bien, à ce moment-là, nos pensées et nos actes seront en accord avec ces intuitions. Et nous serons enclins à chercher la connaissance à des niveaux qui transcendent le monde physique. Donc, et comme ça, en étant comme ça, en agissant de cette façon, on va forcer le cerveau à développer les centres correspondants, à faire en sorte qu'ils deviennent actifs et fonctionnels et qu'ils s'épanouissent au cours du temps. Et ce sont précisément les sens qui sont en corrélation avec les plans supérieurs de l'être et qui font que s'ils étaient actifs, eh bien, on ramènerait à la conscience ce qui se passe pendant le sommeil aussi bien le sommeil du rêve que le sommeil plus profond. Donc, en fait, il faut comprendre aussi que ce stade d'éveil, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle l'immortalité de conscience, parce qu'il n'y a aucun break. Et donc, c'est une continuation de conscience vigilante à travers tous les plans de la nature, toutes les phases du sommeil, mais aussi, bien évidemment, à travers tous les états de la méditation et aussi tous les états post-mortem que l'on traverse entre deux incarnations. Et en fait, il faut comprendre que cet état d'éveil, seuls les véritables maîtres de sagesse, les éveillés, sont arrivés à ces niveaux, en sachant que dans le cours de l'évolution, nous aussi, on atteindra ces niveaux progressivement et petit à petit. Alors maintenant, on va se poser la question, que peuvent nous apprendre nos rêves? Alors, il faut savoir que tous les rêves sont produits par une ou plusieurs causes. Et il suffirait d'abord de les découvrir pour comprendre ce qu'il y a derrière le rêve. Alors, ça peut être une cause physique, comme un bruit dans la rue, entendu et perçu inconsciemment par le dormeur, et qui, corrélé avec toute la mémoire, va produire un rêve. Alors, ce genre de rêve n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça peut être aussi, au niveau physique, par exemple, le rêve, ou un rêve qui a été induit par une digestion difficile, ou alors on a la couette qui nous empêche de réveiller, et là le rêve va plutôt se traduire par un cauchemar, on va être réveillé. Et du coup on va pouvoir, si c'est possible, rétablir la situation. Alors il arrive aussi que certaines personnes fassent des rêves avertisseurs et prémonitoires. Et Madame Blavatsky nous dit que ceci exige la coopération active de l'ego. Et en fait, ces rêves sont si frappants que le dormeur, en général, ils sont imprimés vraiment dans la mémoire du dormeur, en tout cas en partie, et il va se réveiller, ça peut être un cauchemar, il va se réveiller avec le sentiment d'un danger, ou pour lui, ou pour quelqu'un d'autre, si la personne ne peut pas être avertie elle-même. Et là, on a un très beau rêve, un rêve très intéressant, qui a été fait par une personne qui croyait qu'elle se levait et allait vers sa fenêtre. En fait, c'était le rêve. Elle regarde par sa fenêtre et elle voit défiler des gens deux à deux, des gens qu'elle connaît. Et puis arrive un corbillard conduit par un garçon et ce garçon tourne la tête et il lui dit « Êtes-vous prête ?» Et là, elle remarque qu'il a des grosses cicatrices sur le visage et elle se réveille. Très angoissée parce que le corbillard, c'est pas bon signe. Donc le lendemain, elle en parle à ses amis en disant « Voilà ce que j'ai rêvé, mais si jamais je devais rencontrer ce garçon, je le reconnaîtrais forcément à cause des vilaines cicatrices qu'il porte sur le visage. » Et puis les mois passent, le rêve est oublié, et un jour, elle se trouve à la porte d'un ascenseur dans un grand hôtel. L'ascenseur s'ouvre, elle remarque le liftier et elle a l'impression de le connaître. Il tourne la tête et il lui dit « Êtes-vous prête ?» Et là, elle voit les cicatrices sur son visage. Alors, un petit peu affolée, elle recule et elle sort de l'ascenseur. Et puis l'ascenseur se referme, il part et elle se résonne. Et là, on entend un énorme bruit. En fait, l'ascenseur chute jusqu'au sous-sol. Et tous les occupants sont morts. Eh bien, c'était un rêve prémonitoire d'avertissement, c'était un rêve allégorique d'avertissement, parce que cette dame, bon, ça lui a permis d'éviter la mort. Alors, c'est intéressant, parce qu'on se dit, mais voilà, elle a fait ce rêve-là, du coup, voilà, elle est pas morte. Alors, pourquoi a-t-elle fait ce rêve? Et pourquoi les gens qui vivent des accidents parfois mortels ne sont pas avertis en rêve ou même intuitivement? Eh bien, en fait, c'est karmique. Parce qu'en fait, il y avait d'autres causes qui préservaient cette personne et qui faisaient que l'heure de sa mort n'était pas encore arrivée. Donc pour elle, c'était tant mieux. Mais il faut savoir que parfois les rêves peuvent préparer un individu à vivre justement quelque chose de difficile ou même le préparer à la mort. Et nous avons ce rêve, par exemple, de cette personne qui est en phase terminale d'un cancer dans un hôpital. Et puis, elle a très, très peur de mourir. Elle s'accroche à la vie. Et puis, voilà qu'elle fait le rêve. Elle voit une bougie devant une vitre. Cette bougie s'éteint, traverse la vitre, puis se rallume. Et pour elle, c'est tout à fait parlant. Elle est complètement apaisée et elle va en parler à son infirmière, lui raconter le rêve. Et finalement, elle va mourir quelques heures après, mais tout à fait sereine et apaisée. Donc ça aussi, c'est très intéressant, ce genre de rêve. Et puis aussi, il y a des rêves aussi tout à fait particuliers qui sont, que souvent font ceux qui s'astreignent à une discipline spirituelle. Et là, le rêveur se voit poursuivi par quelqu'un et il va en éprouver une très grande frayeur parce qu'il aura l'impression d'être rattrapé. Et en général, c'est un cauchemar, il se réveille. Et puis, en fait, il faut comprendre que le poursuivant symbolise en fait toutes les tendances qu'il avait décidé de régler, c'est-à-dire tous ses défauts qu'il veut travailler pour que ça devienne des vertus plutôt que ce soit des défauts. Et donc en fait, ce poursuivant en fait, il correspond à la symbolisation de toutes les tendances que cet homme a décidé de traiter et qui ont tendance à vouloir rester, à pas vouloir s'en aller. Et donc le rêveur se rend compte qu'il a encore des attachements et que en fait il faut savoir que tant qu'il n'aura pas pris les dispositions vraiment fortes pour régler tous ces problèmes, le rêve va se reproduire plusieurs fois, ou alors il va complètement s'arrêter si la personne a décidé que finalement elle restait comme elle est et puis tant pis pour ses défauts. Donc voilà, ça c'est un rêve qui est récurrent et qui arrive souvent, ce type de rêve, à ceux qui s'astreignent à une discipline spirituelle. Alors maintenant, il y a un rêve aussi qui est très intéressant et qu'on cite souvent ici quand on parle de ce sujet, parce que c'est un rêve qui est c'est un rêve allégorique aussi, mais qui est très explicite. Et c'est le rêve de l'incitation et de l'encouragement de l'ego à avoir une vie spirituelle, justement. Alors, c'est le rêve d'une personne qui probablement commence à vraiment aspirer à avoir une vie beaucoup plus authentique, beaucoup plus spirituelle. Et donc, voilà qu'elle rêve, qu'elle marche dans un endroit où il y a une route, et cet endroit est bordé de deux talus. Et là, il y a plein de gens qu'elle connaît et qui ramassent des fleurs qui sont très brillantes, de belles fleurs. Et donc, elle s'approche aussi pour ramasser ses fleurs. Et quand elle s'approche, eh ben, les fleurs ont disparu. Et là, elle va entendre une voix qui lui dit « Monte plus haut chercher des fleurs ». Alors, elle va monter sur le talus et puis arriver en haut. Et qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, que de la mousse noire. Et là, la voix insiste et lui dit « Cherche plus profondément ». Et là, elle va creuser sous la mousse. Et là, qu'est-ce qu'elle va voir? Des magnifiques fleurs qui s'appellent des immortelles. Et ce rêve est tout à fait symbolique, vraiment très symbolique, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les fleurs brillantes qui intéressent tous les gens, le commun des mortels, si on peut dire, eh bien, représentent toutes les attractions du monde physique, tout ce qui nous attire. Et en fait, leur brillance aveugle les gens, parce qu'en fait ce ne sont que des illusions, parce que ce sont des choses qui sont impermanentes, qui ne font pas partie de réalité. C'est des choses qui n'ont aucune valeur réelle. Et en fait, la personne donc qui rêve, elle n'est plus attirée par ce genre de fleurs, entre guillemets, par ce genre de choses, mais quand même, elle pourrait être encore intéressée. Et c'est là que la voix intervient et lui dit de monter plus haut. Alors c'est ce qu'elle va faire, mais plus haut, il n'y a que de la mousse noire, parce que le chemin spirituel, c'est un chemin qui n'est pas attrayant du tout, au contraire, il est difficile, il est harassant. Et là, il faut creuser, il faut aller derrière, il faut persévérer, et c'est là que celui qui entre dans une discipline comme ça et qui persévère, qu'est-ce qu'il va trouver? Eh bien, il va trouver les fleurs de la vie, c'est-à-dire les fleurs de l'immortalité. Hein, comme on a parlé tout à l'heure, cette immortalité de conscience qui vont nous permettre d'entrer dans les champs de la nature, aussi bien du rêve que du sommeil sans rêve. Donc, c'est un rêve magnifique, allégorique, qui est à vocation d'instruction. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, le commun des mortels, justement, comment être plus perméable aux incitations de l'ego qui finalement mènent à l'éveil? Alors, il faut savoir que pour l'ego, sur son propre plan, eh bien, il n'y a ni temps, ni espace, ni passé, ni futur, mais c'est un éternel présent. Tout se déroule devant la conscience, dans un perpétuel présent. Et là, toutes les causes, en fait, sont semées, qui ont été semées, représentent, c'est le plan causal d'ailleurs, on appelle ça, représentent tout ce qui, enfin, ça va être des effets, les causes vont donner des effets, et ces effets sont plus ou moins modulables ou vont se produire, et sur le point de se produire. Et donc, en fait, l'ego va toujours tenter d'instruire la personne sur ce qui est derrière les apparences, parce que la vision de l'ego, elle est réelle, mais nous, notre vision avec le prisme de la personnalité, elle est toujours déformée par ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc., les attractions, tout ça. Donc, il y a une vision de l'ego qui est réelle, et ce qui serait intéressant, c'est que nous puissions avoir accès à cette vision réelle des choses. Et donc, l'ego va toujours essayer d'éclairer la personnalité en essayant de rendre le lien actif entre les deux, en sachant que quand il sera vraiment actif, qu'on pourra vraiment établir une connexion sans interférence, hein, avec cet ego, eh bien, la lumière du supérieur pourra venir dans le champ mental et sans qu'il y ait d'erreur, parce qu'on aura purifié tous nos instruments. Et donc, l'ego tente toujours d'ouvrir la personne à la connaissance de ce qui est réellement, c'est-à-dire à la vie, à la réalité plus vaste de son être. Alors, pour arriver vraiment à avancer dans cette voie, il faut déjà, dans la vie de tous les jours, s'efforcer d'être toujours présent dans ce qu'on fait, d'être bien là, la conscience bien présente, pas être à moitié passif et puis faire les choses d'une façon automatique, répondre d'une façon automatique. Non, il faut que la conscience soit bien présente, d'une part. D'autre part, il faut être à l'écoute de tous les messages de l'ego, tant dans la veille que dans le sommeil. Parce que quelquefois, l'ego peut parler d'une certaine façon. Vous cherchez quelque chose, tout d'un coup, vous avez une intuition. Et c'est éclairant, vous comprenez tout, la situation. Ça, c'est le langage de l'ego dans le moment de la veille. Et donc, dans le moment du rêve, il parle encore plus d'une certaine façon. Et donc, là, il faut essayer d'écouter tous les messages. Et puis, quand on a compris les choses, qu'on a entendu quelque chose, qu'on comprend quelque chose de nos rêves, à ce moment-là, eh bien, il faut en tirer des leçons pratiques. Il faut appliquer, bien sûr. Parce que si on ne fait rien, l'ego, il peut parler, c'est jamais entendu, quoi, si on ne fait rien derrière. Donc, il faut toujours bien écouter les choses de façon à tirer une certaine sagesse et puis appliquer avec un sens éthique qui va s'affiner de plus en plus, hein, au fur et à mesure qu'on évolue. Ce sens éthique s'affine. Et c'est comme ça que le cerveau, eh bien, il sera stimulé, poussé à fonctionner dans le sens de l'âme, avec elle et pour elle. Alors, il faut savoir aussi qu'il est intéressant de faire une introspection régulière, voir comment on s'est comporté avec les autres, pourquoi on a eu des relations difficiles avec telle personne, comment je peux me remettre en question pour que ça aille mieux. Enfin, et puis, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à nous-mêmes, eh bien, prendre les décisions qui s'imposent et les suivre, les mettre en pratique. Et en plus, pour s'accorder, bien évidemment, aux idées du juste, du bien, du vrai, de l'amour, de l'unité. Donc, ça, c'est très important d'agir dans ce sens, parce que quand on agit dans ce sens, eh bien, on tend vers la purification de sa nature, de son mental et de ses pensées, et on va donc dans le sens de l'unité. Parce qu'au niveau supérieur de la nature, tout est unité. Et purifier sa nature, c'est approcher la nature de l'ego. Et à un moment donné, il y a fusion entre les deux. Et quand il y a fusion entre les deux, eh bien, on obtient ce qu'on appelle notre héritage spirituel, c'est-à-dire la connaissance de tout, la capacité de tout connaître, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'omniscience. Et d'autre part, il est important aussi d'étudier tout ce que ont pu écrire ceux qui nous ont précédés sur le sentier, c'est-à-dire les grands éveillés, peu importe la religion, hein, peu importe quelle religion, à partir de quelle religion ils ont fleuri, ces êtres, mais essayer d'étudier tout ce qu'ils ont pu dire, ça permet déjà d'essayer de comprendre, de se comprendre, de comprendre sa nature, de où on va et qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ça répond déjà à pas mal de questions. Et ensuite, mettre en place la méditation. C'est très important de mettre en place la méditation parce que la méditation va nous permettre d'approcher une connaissance qui est non transmissible verbalement. Donc ça, c'est très important. Et tout ça, ça va nous permettre d'établir des centres de connexion avec cet ego qui est notre nature réelle. Et c'est de cette façon, finalement, que l'homme finira par accorder donc, tous ses instruments, hein, cette lyre à cette corde dont on a parlé tout à l'heure, tous ses instruments aux tonalités les plus élevées de l'être, celles qui concernent donc l'âme réelle, l'ego, et sa vie, son développement. Et donc, c'est ainsi que l'expérience vécue à travers tous les plans supérieurs de l'être, eh bien, finiront un jour par devenir quelque chose de conscient à l'homme personnel que nous sommes, mais un homme personnel qui s'est complètement purifié pour atteindre la nature de l'être réel. Et c'est comme ça que le mystère du sommeil, le mystère de l'être, se révélera progressivement à l'individu qui est entré dans cette voie. Et donc, il comprendra donc ce que la vie attend de lui, il comprendra surtout qu'il est une partie intrinsèque de cette vie une, et à ce moment-là, il avancera de concert avec elle. Voilà, Ami.